Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo de lecture linéaire, puisque vous savez que maintenant ce sont les lectures linéaires qui remplacent les lectures analytiques. Alors, on commence aujourd'hui par une fable de La Fontaine, d'accord ? Et la fable de La Fontaine qu'on va expliquer aujourd'hui s'appelle « Le pouvoir des fables ». Alors, je vais vous faire une petite introduction pour commencer. Vous savez que La Fontaine n'a pas inventé ses fables, mais qu'il s'est servi de certaines sources. Ici, en l'occurrence, il y a deux sources. Il y a un certain Laurentius Abstemius, qui est un fabuliste italien du 15e siècle, du 15e, 16e siècle. Et puis le fameux Ésope, dont La Fontaine tire beaucoup de son inspiration. Ésope avec un texte qui s'intitule « L'orateur d'Emade ». Alors, je vais vous lire une partie de la fable parce que c'est une fable qui est longue, qui fait partie du livre 8, et c'est la quatrième. Et c'est une fable en fait en deux parties. C'est une fable qui est adressée à l'ambassadeur de France en Angleterre. À cette époque, la France est en guerre contre toute l'Europe, c'est ce qui s'appelle les guerres de Hollande entre 1672 et 1678. Et seule l'Angleterre, à cette époque, ne s'est pas liguée contre la France. Donc La Fontaine, ici, dédie cette fable à Monsieur de Barillon, qui est l'ambassadeur de France auprès du roi d'Angleterre. Et durant toute la première partie, il s'adresse à lui. Et ensuite, il insère dans cette adresse une histoire qui va être, à partir du vers 34, l'objet de notre explication, de notre lecture linéaire. Alors, je vais peut-être vous lire toute la fable, mais on va simplement expliquer la deuxième partie. À Monsieur de Barillon, donc le pouvoir des fables. La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des comptes vulgaires ? Vous puis-je offrir mes vers et leur grâce légère ? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, sont-ils point traités par vous de téméraires ? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas, mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de 1000 endroits de la terre ils nous viennent des ennemis, j'y consens, mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose ? Quel autre Hercule enfin ne se trouverait là de combattre cette hydre ? Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras ? Si votre esprit, plein de souplesse, par éloquence et par adresse, peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai 100 moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus, vous ne voulez pas qu'on appuie. Voilà le début donc de la partie qu'on va expliquer. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs, il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et pointe à ses paroles. Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant comme l'hirondelle en volant le traversa bientôt. L'assemblée à l'instant cria tout d'une voix « Et Cérès, que fit-elle ? » Ce qu'elle fit. Un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi ? De compte d'enfants, son peuple s'embarrasse et du péril qui le menace, lui seul entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillée, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Voilà. Alors, on va commencer l'explication à partir du vers 34, comme je le disais, mais avant tout, on va donner un petit peu les mouvements du texte. Alors, on peut repérer qu'entre les vers 34 et jusqu'au vers 47, l'orateur essaye en vain d'alerter ses compatriotes. Échec donc de la rhétorique classique. Ensuite, du vers 48 à 55, il change de tactique, ce même orateur, pour attirer leur attention, et cette fois, il réussit. Et puis, troisième mouvement du texte, du vers 56 à la fin, la morale, hein, la morale de l'histoire. D'accord ? La problématique générale, hein, on peut l'énoncer sous cette forme, puisque c'est une fable où La Fontaine parle du pouvoir des fables. Il y a donc une mise en abîme. Hein, donc on peut formuler la problématique de cette façon, par exemple, comment La Fontaine, par une fable puissante, met-il en scène la puissance des fables. D'accord ? Allons-y donc pour l'explication. Alors on remarque qu'entre les vers 34 et les vers 35, il y a, puisque c'est un récit, eh bien on donne le narrateur, hein, c'est-à-dire La Fontaine, le premier fabuliste, celui qui s'adressait à l'ambassadeur, eh bien donne le cadre spatio-temporel dans Athènes autrefois. Hein, donc c'est un autre lieu, un autre temps. Évidemment, les lecteurs ne sont pas dupes, hein, c'est une convention, c'est une pure convention, pour attirer l'attention sur le fait que les choses peuvent marcher ici et maintenant. La patrie en danger, hein, ça fait référence à quelque chose que les gens cultivés connaissent, c'est-à-dire l'invasion de la Grèce par la Macédoine, par Philippe de Macédoine. À mettre en parallèle cette situation qui était celle de la Grèce, hein, dans la fable, à celle qui est celle de la France, au moment où La Fontaine écrit la fable, où l'ensemble de l'Europe est coalisée, hein, contre la France, à l'exception donc de l'Angleterre. Alors, cet orateur, donc, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune, et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, l'art tyrannique en question, c'est l'art, évidemment, de la rhétorique. Il y a, ici, avec l'expression « forcer les cœurs », hein, une métaphore de l'efficacité argumentative. Une argumentation, hein, surtout lorsqu'elle s'attache à persuader, hein, donc à émouvoir, eh bien, peut être vue comme quelque chose qui force les cœurs. Il y a tout un... L'orateur s'emploie, il y a tout un tas de verbes, hein, qui sont des verbes excessifs. Courir, voulant forcer les cœurs, il parla fortement, hein, les verbes sont modalisés, dans le sens d'une action violente. La conclusion de tout ça est plutôt laconique. Hein, au vers 39, il y a le pronom impersonnel « on » qui est utilisé. « On ne l'écoutait pas ». Hein, il n'y a même pas de coordination entre... tous ces efforts et la conclusion, le résultat, s'il y a juste une juxtaposition, hein, ce qu'on appelle une asyndète, pour former un contraste, tout simplement. Deuxième essai, hein, l'orateur, voyant l'inefficacité, eh bien, s'emploie de nouveau. L'orateur recourut à ces figures violentes. Ici, au vers 40, hein, on a un octosyllabe. Pourquoi a-t-on un octosyllabe ? Parce qu'on avait des alexandrins, et il faut, hein, y a une espèce de logique qui veut que même si La Fontaine change le maître de ses vers de façon un peu libre, à sa guise, eh bien, lorsqu'on a démarré sur un vers pair, donc un alexandrin avec 12 syllabes, on doit normalement, hein, on attend un vers pair également, même s'il n'est pas de 12 syllabes. Et ici, donc, on attend 8 syllabes, ce qui explique que l'on doive faire la diérèse sur violente, à ces figures violentes. Hein, cette diérèse qui souligne par un petit peu l'artificialité de la diction, eh bien, la violence précisément de ces figures, hein, le fait qu'elles sont censées être frappantes. Et puis, il utilise... Hein, toutes les ressources de l'art oratoire. Il fit parler les morts, hein, alors ça c'est ce qu'on appelle la prosopopée en figure de style, tonna, hein, et puis le dernier terme de cette énumération laisse présager aussi, lui, l'insuccès, hein, de cette tentative, dit ce qu'il put, hein, et ça introduit tout de suite par asyndète, hein, comme tout à l'heure, par simple juxtaposition, la conclusion. Qui est énoncé, hein, de façon avec un parallélisme dans un alexandrin où il y a une belle césure à l'hémistiche, 6 syllabes d'un côté, 6 syllabes de l'autre. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. Il y a donc échec. Hein. L'animal aux têtes frivoles, alors ici c'est une référence un petit peu savante, un petit peu culturelle, une référence au poète latin Horace, pour qui le peuple romain était un monstre hein, aux multiples têtes, c'est-à-dire un animal incapable d'être guidé par une seule idée. Cet animal, hein, donc ce peuple, il y a une espèce de commentaire, hein, d'exégèse sur le pourquoi cet effort rhétorique n'a pas marché. L'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. C'est-à-dire que l'efficacité argumentative de toutes ces très belles figures, de ces figures violentes, hein, comme il le dit, eh bien, s'est émoussée par l'habitude qu'ont les gens de les écouter. Hein. C'est des choses qui sont rebattues et qui, du même coup, n'attirent plus l'attention des gens. Tous regardaient ailleurs, il envie s'arrêter à des combats d'enfants. Ici, il y a même cet exemple hein, un petit peu extrême qui fait un petit peu un effet de réel, c'est-à-dire qu'on les imagine, hein, on imagine une scène, effectivement, avec tous ces combats d'enfants. Et l'attention des gens, attirée par cette chose un petit peu anecdotique, bien plus que par les importants problèmes politiques que l'orateur essayait de leur faire comprendre. Alors, c'est à partir de là que le deuxième mouvement du texte démarre. Hein. Que fit le harangueur ? Question rhétorique, six syllabes, il prit un autre tour. Réponse, hein, sous forme affirmative, six syllabes de l'autre. Le verbe ici hein, est bien balancé. Il y a donc une fable animalière qui mélange le divin, avec Cérès, l'animal et l'animal. Le divin et l'animal, hein, avec l'anguille et l'hirondelle. On a alors cette fable est bien construite, hein, elle est bien armaturée, on pourrait dire, l'architecture fait en sorte que la fable soit attractive et soit compréhensible. Il y a un parallélisme. Hein, Cérès avec l'anguille et l'hirondelle. Cérès, comment s'est-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, et comme l'hirondelle en volant, il y a ce parallélisme, l'anguille, l'hirondelle, renforcé par la même structure grammaticale, c'est-à-dire le gérondif. L'hirondelle en volant, et l'anguille en nageant. Hein. Il y a donc ce parallélisme qui est simplement une figure pour capter l'attention, pour faire que hein, les auditeurs ou les lecteurs soient dirigés un petit peu à leur insu par l'art, hein, l'habileté de la narration. Mais le récit de ce narrateur est inachevé. Il y a fermeture des guillemets au vers 53, et c'est volontairement, bien sûr, hein, même si ça n'est pas expliqué en toutes lettres, hein, explicitement, mais c'est bien évidemment volontairement que l'histoire est inachevée pour susciter cette réponse du peuple, ou cette interrogation du peuple. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix, « Et Cérès, que fit-elle ?» hein, point d'interrogation. Donc les choses, hein, chez La Fontaine, s'enchaînent comme ça, de façon assez juxtaposée, sans qu'il y ait besoin d'expliquer les choses, la simple succession, l'ordre de succession, des faits tient lieu de relations de cause à conséquence implicites. Il y a donc la reprise de cette interrogation par le narrateur de la fable, reprise par une figure qu'on appelle ici un chiasme. Que fit-elle ? Ce qu'elle fit, hein, reprise de la question sous forme affirmative. Hein, ce qu'elle fit, un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Et le « vous », ici, le pronom personnel, désigne les personnes à qui la fable était contée jusqu'à présent. Hein, ce détour de la narration où le « vous » a disparu, hein, où le personnage qui narrait comme les auditeurs était noyé dans une espèce d'indistinction, et bien ici reparaît la situation d'énonciation au moment où le message est prêt à être délivré et où les auditeurs sont prêts aussi à intégrer ce message. Il y a une interlocution directe donc ici qui a son importance. Il y a aussi alors des interjections, hein, l'étonnement qui indique l'étonnement, l'exclamation du narrateur, hein, son émotionnalité. Quoi? De conte d'enfant, son peuple s'embarrasse, point d'exclamation, avec une ponctuation expressive. Et le point argumentatif en lui-même, l'argument principal arrive au vers 60, sous forme de question, aussi question rhétorique, et ici c'est une figure de style qui incite la personne à qui on pose cette question à trouver lui-même la réponse, et ici c'est le peuple en entier. Que ne demandez-vous, hein, avec ce vous qui est encore là, ce que Philippe fait? Alors Philippe, c'est le roi de Macédoine, hein, de cette époque. À ce reproche, conclusion, morale, l'assemblée, hein, sous forme d'octosyllabe ici, à ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur, un trait de fable, en eut l'honneur. Il y a donc, hein, ici cette morale qui célèbre le pouvoir des fables. Et ensuite une généralisation à partir de l'exemple athénien, hein, de cette histoire qui a été racontée à l'humanité entière avec ce pronom personnel « nous ». « Nous sommes tous d'Athènes en ce point ». D'accord, généralisation. Et en même temps, La Fontaine, pardon, évoque son cas particulier. Et moi-même, au moment que je fais cette moralité, au moment que je m'adresse à vous, monsieur l'ambassadeur, personnage important, personnage éminent, sur des affaires extrêmement importantes, hein, la guerre, la paix, la domination militaire de tel ou tel pays en Europe, eh bien, au moment que je fais cette moralité, hein, moi, La Fontaine, au moment où je m'attache à ces problèmes extrêmement graves et extrêmement sérieux, si peau d'âne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. C'est-à-dire que si une fable, si une historiette sans prétention et sans gravité m'était racontée, eh bien je serais pareil, je serais victime, hein, de cet attrait, je serais happé par un espèce d'intérêt assez... un intérêt, pardon, assez tyrannique, hein, qui m'emmènerait à me divertir des problèmes importants pour m'intéresser à ça. Morale générale, ensuite, le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Il y a cette formulation un petit peu bizarre au vers 70, il le faut amuser encore comme un enfant, il faut amuser le monde. C'est-à-dire que il y a comme un devoir, hein, de la part de l'humanité, peut-être de certains personnages, comme un poète, par exemple, d'enchanter le monde, d'amuser, hein, le monde, et ça répond sans doute au sens étymologique du mot poésie, hein, le sens grec de poiesis, qui est faire, qui est créer, qui est stimuler, hein, qui indique une activité et non pas une passivité. Hein, ici, c'est à l'homme d'enchanter le monde, de l'animer, de l'amuser encore, comme un enfant. Conclusion. Dans cette fable réflexive, hein, c'est un art poétique que La Fontaine nous propose. Il y a une mise en abîme du pouvoir de la fable qui fonctionne sur un parallélisme de situation, hein, entre la Grèce du temps de Philippe de Macédoine et la France du temps de cette guerre de Hollande. C'est une illustration du pouvoir des fables et du paradoxe, d'un certain paradoxe aussi, du mensonge et de la vérité. Le mensonge, hein, étant l'histoire qu'on invente, la fable, pour attirer les gens vers la vérité. Hein. On les attrape par un mensonge et on les attire à une vérité. On les attrape par un récit et on les attire à une morale. Ce paradoxe, hein, du mensonge et de la vérité, cette alliance un petit peu particulière des deux contraires, avait été exploité par La Fontaine aussi dans une autre fable qui s'intitule « Le dépositaire infidèle », hein, qu'on peut mettre tout à fait en parallèle avec celle que nous venons d'expliquer.